France Inter.
The depth and breadth of my experience in both the public and private sectors qualified me to serve as a Federal Reserve governor. I would be honored to work with my colleagues to help navigate this critical moment for our nation's economy and the global economy.
L'expérience dans le privé et dans le public me qualifie pour occuper le poste de gouverneur de la Réserve fédérale. Je serai honorée. Alors ça, c'est Lisa Cook, lors de son audition au Sénat, il y a 3 ans et demi. Nommée par le président Biden, les sénateurs républicains ont tous voté contre elle, ce qui ne l'a pas empêchée de devenir la première femme noire au conseil d'administration de la Fed, la banque centrale américaine. Alors lundi dernier, Donald Trump l'a limogé, accusant Lisa Cook de fraude sur des prêts IMO dans le passé. Yes, Trump veut se débarrasser d'elle comme de tous ceux qui ne votent pas pour une baisse immédiate des taux d'intérêt. Le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, en sait aussi quelque chose. Au-delà des sobriquets depuis des mois, Trump l'a attaqué cet été, lui également sur sa probité. Mais avec Lisa Cook, le chef de l'État est donc allé plus loin. Sans attendre un jugement sur d'éventuelles preuves, la porte. Est-ce légal ? La gouverneure se bat en justice, audience mardi prochain. Son combat clairement la dépasse. Il se trouve que l'indépendance des banques centrales est une invention démocratique. Débattue, certes, aujourd'hui, mais mise en place à la lumière des leçons de l'histoire. L'Allemagne des années 20 et plus récemment la Hongrie, l'Argentine, la Turquie, pour éviter que des politiques ne jouent avec la stabilité de la monnaie à des fins électoralistes. L'efficacité des banques centrales dans leur lutte contre l'inflation tient à leur indépendance. S'alarmait déjà l'an dernier la patronne du FMI sur son blog, s'inquiétant de voir des ingérences sur tous les continents. Avec Lisa Cook, la règle qui vaut déjà pour la science et le climat aux États-Unis risque de s'appliquer à tous les futurs banquiers centraux américains. Il faut être en ligne avec les théories économiques de Donald Trump ou alors you're fired.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'On n'arrête pas l'écho. L'équipe est en place, on n'attendait plus que vous à vrai dire. Il y a Valentin Pérez avec qui j'ai préparé cette émission, il y a Céline Hila, la réalisatrice, Anne-Cécile Perrin, l'attachée de production, Achille Aknin signe les mix et Laurent Baudouin est avec nous à la technique. L'invité de ce samedi 30 août est un ancien ministre de l'économie. Il a été aussi commissaire européen. Il connaît la préparation des budgets, les tractations politiques, les coulisses de Paris comme de Bruxelles. Interview de Thierry Breton, ça sera vers 9h40. Et gros plan sur les droits de douane que Donald Trump a imposé cet été au reste du monde et que la justice américaine vient de déclarer illégaux en grande partie. C'est l'info de la nuit. Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. La rentrée littéraire, elle se passe aussi au rayon économie. Bonjour Christian Chavagneux.
Bonjour à toutes et à tous et bonjour Alexandra.
Vous allez nous dire, Christian, ce qu'il faut lire pour se remettre les neurones en marche.
Oui, 2 livres aujourd'hui. 1 sur les patrons français, les petits et les grands, et 1 autre sur l'histoire économique de la France.
La chronique, l'écho à la page, ça sera juste avant 10h. On vous retrouve tout à l'heure, Christian. Mais tout de suite, l'actu, le débat, c'est avec Anne-Sophie Le Chevalier du quotidien Libération. Salut Anne-Sophie.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Et Béatrice Mathieu de l'hebdomadaire L'Express. Hello Béatrice.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Alors donc, le vote de confiance demandé par le Premier ministre se déroulera dans 10 jours. On a un peu la semaine de vérité la semaine prochaine. François Bayrou, il pose la question de l'importance de l'effort à faire. Il a un chiffre, c'est quasiment 44 milliards d'euros, 43 milliards 800 millions d'euros. Il y a un autre chiffre, ou plutôt il y a un autre calcul, c'est l'arithmétique du 8 septembre, le jour du vote de confiance. Il n'est pas favorable à son gouvernement. Alors si celui-ci tombe, quelles conséquences économique. Est-ce qu'on a les moyens de s'offrir une nouvelle crise politique ? C'est notre débat.
Dans 2 semaines, François Bayrou devra peut-être faire ses cartons et quitter Matignon.
Le Premier ministre, qui tenait cet après-midi une conférence de presse pour défendre son plan à 44 milliards d'euros d'économie, a annoncé qu'il allait solliciter la confiance de l'Assemblée. Ce sera le 8 septembre.
Cette déclaration de politique générale aura pour objet...
François Bayrou,
Premier ministre.
De choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances, donc en choisissant de réduire nos déficits et en produisant plus.
Rendez-vous compte aujourd'hui.
Jordan Bardella, président du Rassemblement National.
Depuis 2017, il y a eu autant de dettes supplémentaires dans notre pays que dans les 50 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Moi, je crois qu'il est urgent de rompre avec ces politiques.
Sur le montant des économies.
Éric Lombard, ministre de l'Économie.
Nous avons un engagement pris devant l'Union européenne et devant les marchés financiers. Donc sur les 44 milliards, je suis très ferme.
Vous bougez de
tenir sur les 44 milliards.
Le problème avec ce budget, c'est quoi ?
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.
C'est qu'encore une fois, il nous fait payer toutes et tous le monde du travail pour continuer à épargner les rentiers et les plus riches. Pour nous, le sujet, c'est nos fins de mois, c'est notre vie de famille. Ce qui se joue, c'est notre souveraineté.
Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics.
Je ne suis pas en train de crier au loup. Mais moi, vous savez, en 2009, mon premier métier, c'était que j'étais économiste dans une banque française et j'ai suivi la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne perdre leur souveraineté. Nous devons, par le consensus, par la négociation, d'ici au 31 décembre, faire des choix pour nous.
Les taux d'intérêt explosent.
Éric Coquerel.
Non, les taux d'intérêt n'explosent pas.
Président La France Insoumise de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale.
Nous n'aurions plus assez de prêteurs. Vous savez qu'au début de l'année, quand on a émis l'emprunt, il y a eu 10 fois plus de personnes qui ont voulu prêter à la France parce qu'elle est encore à placement sûr. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la politique menée depuis 2017 est en train de créer le chaos.
Dans un panorama extrêmement confus, si on rajoute du chaos au chaos, ça ne réglera rien.
Patrick Martin, président du MEDEF.
Moi, j'attire votre attention là-dessus. L'image de marque de l'entreprise n'a jamais été aussi bonne. Et syndicats et organisations patronales, le MEDEF au premier chef, se parlent tous les jours. On est parfaitement conscients les uns les autres de la fragilité du pays. Il faut des socles, il faut des points d'ancrage. Et dans cette confusion ambiante, il faut qu'il y ait des repères.
Allez, on va essayer de les poser, les repères. Anne-Sophie Le Chevalier et Béatrice Mathieu pour le débat. Alors, l'enjeu, c'est la dette de la France. Plus de 3 300 milliards d'euros. François Bayrou sur TF1, il dit « Je ne suis pas en train de marchander. Est-ce qu'on s'accorde sur la gravité et l'urgence ?» Anne-Sophie Le Chevalier, on va commencer par là. La gravité et l'urgence, est-ce que la dette, c'est grave et c'est urgent ? Je crois que c'est ça l'adjectif le plus important.
Alors, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faille réduire le déficit. La question,
le déficit, c'est pas la dette.
Et c'est au bout d'un moment, une fois que le déficit sera réduit, alors la dette pourra commencer à décroître. Et ça, c'est d'ici à 2-3 ans.
Le déficit, c'est tous les ans, entre les recettes et les dépenses de l'État. On est dans le négatif depuis 1974. Et donc, ça crée une dette aussi importante que celle dont on vient de parler.
Donc ça, il en va évidemment de notre crédibilité européenne. Ensuite, est-ce que c'est si grave et si urgent que le gouvernement et le Premier ministre le disent ? Alors déjà, posons les choses. Aucun économiste ne discerne une crise de la dette imminente. La France ne rencontre pour l'instant aucun problème de refinancement. Le meilleur argument, c'est que pas plus tard que lundi, juste avant que la conférence de presse de François Bayrou ne commence, il y a eu une émission de titres à court terme qui se terminait. 7 milliards d'euros ont trouvé preneur et le montant des offres soumises pouvait couvrir au moins 2 fois les émissions. Même 3-4 fois selon les durées. On verra le 4 septembre la prochaine émission d'obligations à taux long, mais on n'a pas de problème majeur pour se refinancer. C'est quand même le plus important.
Béatrice, vous êtes d'accord là-dessus ?
Les taux ne sont absolument pas comparables avec ce qu'ont connu les pays du Sud dans les années 2010.
Alors, oui, la situation est grave. Non, elle n'est pas catastrophique. Et je pense que les discours catastrophique que l'on entend à la fois dans la bouche du Premier ministre, où on dit le FMI est à nos portes, mais aussi pour une partie de la gauche qui parle de boucherie sociale, de saignée sociale, d'une rigueur, d'une austérité incroyable. Ces discours sont extrêmement dommageables et dangereux. Non, le FMI n'est pas à nos portes, et là Anne-Sophie l'a très bien dit, juste en début 2012, hein, quand il y a eu la crise des dettes souveraines et qu'effectivement le FMI était aux portes des pays comme la Grèce, le Portugal ou l'Espagne, les taux au Portugal étaient de 17%. En Grèce, ils étaient de 37%. On n'est pas du tout dans la situation actuelle.
On emprunte à 3,5 à 10 ans aujourd'hui.
Voilà. Et jamais il n'y a eu une intervention du FMI, j'ai regardé ça hier soir, dans un pays où on a une balance des paiements positifs. La balance des paiements, c'est les biens, mais aussi les services et les flux financiers. La France est dans une situation où on a un excédent de la balance des paiements. Jamais le FMI n'est intervenu dans un excédent. Alors, ça ne veut pas dire que d'un côté, de l'autre, parce qu'on entend aussi la boucherie sociale, la saignée sociale.
Attendez, on va regarder les chemins pour y arriver après.
Juste une anecdote historique intéressante. Éric Monnet, économiste historien, qui m'est rappelé cette semaine, dans les années 20, la France avait une crise des dettes publiques. Et là, le gouvernement prend une loi pour interdire de dénigrer sans raison l'État et sa gestion des comptes publics, de lancer des rumeurs diffamatoires, d'exagérer, c'était les spéculateurs sur la dette qui faisaient ça. L'État, il cherchait alors à se protéger, à montrer la qualité de sa signature. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse, avec un gouvernement qui noircit quand même beaucoup le tableau, et c'est vraiment très étonnant.
Alors, il y a un narratif, mais si on reste sur l'économie, il y a un chiffre sur lequel les débats se cristallisent, c'est ce chiffre de 44 milliards d'efforts que François Bayrou et son ministre de l'économie considèrent comme qui s'impose. Est-ce que ces 44 milliards, ça s'impose? Anne-Sophie, Béatrice?
Il y a un questionnement en fait sur ces 44 milliards. Comment sont calculés ces 44 milliards? Alors c'est Éric Heyer qui est souvent ici à ce micro qui l'a très bien expliqué, notamment sur le volet des dépenses en fait. Ces 44 milliards, il y a 30 milliards sur les dépenses et 14 milliards sur les recettes. Comment on trouve les 30 milliards sur les dépenses? En fait, le gouvernement fait la soustraction en fait entre le niveau des dépenses qui auraient été atteintes en 2026 si on n'avait rien fait, en fait, et les dépenses avec les mesures qui ont été présentées le 15 juillet. Et là, on aboutit aux 30 milliards. Mais il y a donc une hypothèse très forte qui est sur la croissance spontanée, en fait, des dépenses publiques. Et là, l'hypothèse est prise par le gouvernement, c'est qu'elle progresserait de 3,5% en valeur, alors qu'il y a une convention en fait européenne où la progression des dépenses est liée à la croissance potentielle.
Ça devient trop technique. Est-ce qu'on peut résumer?
Juste retenir quand même que le gouvernement a calculé autrement. C'est pas comme ça calcule la Commission européenne, et la Commission européenne, toujours selon Éric Heyer, elle va retenir à la fin que la France fait pas 44 milliards d'efforts, mais un effort de 21 milliards, 15 milliards en économie. Et 5-6 milliards en recettes.
Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire?
Ça veut dire qu'en fait, le débat, il est posé sur un montant magique, un peu, et donc ça fausse quand même un peu les termes du débat.
Alors,
Oui, mais ça laisse penser qu'il n'y a pas un problème de dépenses publiques. Or,
ça noircit encore le tableau.
Ça laisse penser quand
même... Il y a des conventions,
Oui, mais si on n'a pas besoin de faire 44, on fait que 20,
si 44,
ça veut dire que...
ça correspond.
Attendez, vous parlez toutes les deux en même temps.
Il y a quand même un problème de dépenses publiques, et la Cour des comptes, dans son dernier rapport de juin 2025, l'a très bien dit, où cette année, en 2024, la progression du cœur de la dépense publique, c'est hors charge de la dette, ce qu'on paye pour rembourser la dette, a progressé de 2,7%. C'est deux fois plus que la croissance économique. Là, il y a un problème de croissance et de dérive de la dépense publique.
Bon, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas s'accrocher à ce chiffre. Il est affiché, mais c'est surtout la méthode pour faire baisser les dépenses publiques qui va être importante, et c'est là où est le débat. On a eu, alors il y a eu le plan de François Bayrou qui a parlé des jours fériés supprimés, de la réforme de l'assurance chômage, et puis cette semaine, il y a deux débats qui ont crispé. Il y a le débat sur l'imposition des plus aisés, les efforts demandés aux plus modestes, et puis il y a ce débat sur les boomers. Anne-Sophie Le Chevalier, qu'est-ce que vous retenez?
Déjà, effectivement, comment on en est arrivé là? Puis après, on peut comprendre. On en est arrivé là, rappelons-le quand même, il y a eu les crises, il y a eu la pandémie, il y a eu la crise inflationniste, on a déversé des milliards d'euros d'argent public pour soutenir l'activité économique, et on a bien fait. On en est aussi arrivé là parce que, Béatrice citait les dépenses, on en est arrivé là parce que les recettes ont considérablement baissé. Le calcul a été fait l'an dernier par la Cour des comptes également. Entre 2018 et 2023, c'est au total 62 milliards d'euros de recettes qui ont disparu, donc l'équivalent de 2,2 points de PIB. Et on en est arrivé là aussi, rappelons-le, parce qu'il y a eu des erreurs de prévision budgétaire et qu'on a mal prévu les recettes en 23 et en 24. Donc, ce qui explique aussi pourquoi on est aussi à la traîne par rapport aux autres pays européens. Donc, le gouvernement, il dit tout le monde doit participer à l'effort. En fait, quand il présente son plan le 15 juillet, tout le monde ne participe pas de toute façon, en fonction de ses moyens, à l'effort. Et sur le principe, donc déjà, ça se discute. Et dans son plan, ce sont surtout... notamment les plus modestes, qui sont mis à contribution. Rappelons-le, hein, il propose de refaire payer à nouveau les plus pauvres. Donc une énième réforme de l'assurance chômage, je crois que c'est la quatrième. 2 milliards par an, il en attend, 4 milliards en année pleine à partir de 2030. Et puis aussi un gel des minima sociaux, à la fois des seuils et des montants des minima sociaux.
Ce que vous êtes en train de dire,
ça,
ouais.
Dans le cadre de l'année blanche, ça rapporte 1 milliard. Le gouvernement dit oui, mais il n'y a qu'un pour cent d'inflation. Mais c'est à nouveau demander l'effort aux mêmes. Et pendant ce temps-là, effectivement, on peut développer. Mmh. Les plus aisés, qui eux se sont considérablement enrichis, sont peut-être mis à contribution, mais ça, on ne sait pas encore comment. On sait qu'il y a des mesures d'équité fiscale pour 4 milliards qu'avait prévu le gouvernement Bayrou, et on n'a pas le détail.
Béatrice Mathieu, est-ce qu'une alternative au plan Bayrou est possible ?
Ah bah, toutes les alternatives sont possibles, mais il faut un chemin, et un chemin qui soit clair, et on ne pourra pas rétablir les finances publiques comme on veut le rétablir à l'horizon de la fin de la décennie, sans à la fois faire quelque chose de très fort sur les dépenses sociales, parce qu'on a un problème de financement et de construction de notre modèle social, en fait, qui ne boucle plus tel qu'il est, en fait, avec une progression tendancielle des dépenses d'assurance maladie qui sont hors de contrôle, avec malgré tout encore un problème sur le système de retraite, et à la fois sur les recettes. Et là, on peut parler...
Qu'il faut mettre plus à contribution, par exemple, les plus aisés et les entreprises, là où le gouvernement dit qu'il ne renonce pas à la politique de l'offre. Et c'est ça, en fait, il me semble, le fond du débat.
Non, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui, dans le système de concurrence internationale que l'on a et de compétition intra-européenne, revenir sur la politique de l'offre. Ça n'est pas possible. Pourquoi on l'a fait, en fait ? C'est pas Emmanuel Macron qui a inventé la politique de l'offre en 2017, puisqu'elle avait été lancée par Hollande et le CICE quelques années avant. C'est parce qu'on était dans une situation de compétitivité extrêmement inquiétante, en fait. Donc, non, on ne peut pas revenir sur la politique de l'offre, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas faire quelque chose sur les recettes, et notamment sur l'imposition des plus aisés, mais pas les 0,0... Voilà,
Anne-Sophie,
des
alors, évidemment, on n'est pas tout à fait d'accord avec Béatrice, mais alors, peut-être quand même pour reparler des plus aisés, sur les plus riches, on sait quand même maintenant, depuis 2 ans et une étude de l'Institut des politiques publiques, que les plus riches en France ne paient pas proportionnellement moins d'impôts que les autres contribuables.
On parle des 0,01% des Français.
Et ce qui fait que l'impôt est dégressif, on a une rupture de la promesse constitutionnelle, et donc du coup... Et ça pourrait rapporter, selon les estimations, entre 15 et 25 milliards. Il y a des problèmes, il faut étudier comment faire et les modalités, mais il y a quand même une question de justice sociale. Je crois que c'est quand même pas mal ça qui s'exprime sur le rejet du plan Bayrou, qu'il faut réussir à résoudre. Et ça, c'est quand même un moyen assez clair qui répond à un problème qui existe, de récupérer des recettes.
C'est le débat de fond, et on ne sait pas quand nous aurons un projet de budget 2026, ça va être toute une aventure encore. Hein. Béatrice Mathieu et Anne-Sophie Le Chevalier, elles ont fait le débat éco ce samedi 30 août 2025. Ailleurs, l'éco continue aussi de tourner. Allez, on part en Chine. 做餐饮23年了，这么多年来自己也没买过社保，其实我是很认同支持的，但是前提是要大家都能活得下去的情况下，你看担心不知道能坚持多久。 Il y a de la musique parce que c'est le TikTok chinois, c'est Douyin. Alors que dit cette personne ? Je dirige un restaurant depuis 23 ans et je n'ai jamais cotisé à la sécurité sociale. Aujourd'hui, je suis extrêmement inquiet. Je ne sais pas combien de temps mon restaurant va tenir le coup, mais que se passe-t-il ? Bonjour, ni hao, Sébastien Berriot.
Ni hao, bonjour à tous, Alexandra.
Vous êtes l'envoyé spécial permanent de France Inter en Chine. Alors l'homme qu'on vient d'entendre, c'est un restaurateur de Wuhan. S'il est inquiet, c'est parce que les choses bougent chez vous pour les entreprises et les salariés chinois. À partir de ce lundi, tout le monde va devoir payer des cotisations sociales. Un énorme changement, n'est-ce pas Sébastien ?
Oui, c'est ça. Alors, en Chine, Alexandra, il faut d'abord dire qu'il y a un système de prélèvements sociaux qui est en vigueur depuis longtemps, qui fonctionne très bien avec des cotisations payées à la source par les patrons et les salariés. Mais le problème, c'est que ce système est loin, très loin d'être appliqué partout. Très souvent, dans les petites entreprises, les petites usines, le patron et ses ouvriers s'entendent pour faire des économies. Chacun, il décide de se passer de ses cotisations. Parfois même, on signe un bout de papier sur un coin de table pour officialiser la chose. Alors en France, on considérerait ça comme du travail au noir. Non, ici, ça fait partie des habitudes et il y a rarement des sanctions. Les experts estiment que moins de 30% des entreprises chinoises respectent les exigences en matière de prélèvements sociaux. Et donc, tout cela a poussé les autorités chinoises à réagir. La justice impose officiellement, à partir de lundi, des cotisations sociales obligatoires.
On pourrait appeler ça du progrès social, mais ça ne veut pas dire, Sébastien, qu'en Chine, les chefs d'entreprise, ni même les salariés, sont enthousiastes.
Oui, parce que ce changement vient bouleverser les habitudes. Beaucoup de salariés dans les usines chinoises ne pensent pas vraiment à leur avenir. Payer des cotisations sociales, ça signifie d'abord pour eux perdre du pouvoir d'achat. Sur un salaire au SMIC d'environ 600 euros par mois, par exemple, un ouvrier devra verser 60 euros de charges sociales, ce qui n'est pas négligeable. Et puis côté patron, on entendait il y a un instant ce restaurateur de Wuhan qui se disait inquiet. Eh bien, c'est le sentiment de beaucoup de chefs d'entreprise déjà confrontés au ralentissement de l'économie. Ils redoutent de devoir payer ces nouvelles cotisations pour leurs employés. Pour avoir une idée, toujours sur un même salaire de 600 euros, le patron devra débourser 160 euros supplémentaires, une nouvelle charge qui pourrait pousser certaines entreprises à réduire le nombre de leurs employés. Et là, c'est une nouvelle augmentation du chômage qui est à redouter en Chine.
Sébastien Berriot, merci, Chéché, en direct avec nous de Pékin.
Chéché, bye-bye.
9h34 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, Thierry Breton sera notre invité, ancien ministre de l'économie, ancien commissaire européen. On va ouvrir tout de suite le dossier droit de douane. Les taxes décidées par Donald Trump sont-elles illégales? C'est ce que pense la justice américaine. C'est une confirmation en appel dont on a pris connaissance cette nuit. Alors l'histoire n'est pas écrite, hein. Il va y avoir une audience à la Cour suprême. En attendant, ces droits de douane s'appliquent au moins jusqu'au 14 octobre. Et pour les 27, la règle générale, c'est que les produits européens exportés vers les États-Unis seront désormais taxés à 15% et pas de régime de faveur pour les vins, les spiritueux, aux grandes dames des Italiens et des Français. Alors ce matin, nous partons sur le terrain près de Bordeaux, au château du Taillant. Voyez cette très belle bâtisse du XVIIIe siècle et notre reporter, Anna Elverzo, qui tend son micro à Armel Cruz. Elle est à la tête de la propriété familiale depuis une trentaine d'années.
Ah voilà, j'aperçois Armel, qui se dirige vers moi.
Bonjour, ça va et vous? C'est magnifique chez vous, hein?
Ah oui, vous avez vu, c'est une belle propriété, oui. Oh, ouais. On a beaucoup de chance. Il y a une jolie vue.
C'était la propriété de vos parents?
Je suis la quatrième génération, donc vous voyez. Et je travaille avec une de mes filles, comme ça au moins. Et vous avez le vignoble donc qui est en face. Et on a commencé les vendanges aujourd'hui.
C'est superbe, là. Oui, on a toutes ces vignes qui s'étendent devant nous. Vous avez combien d'hectares de vignes?
Alors, on a 26 hectares de vignes et on produit donc un cru bourgeois exceptionnel qui s'appelle Château du Taillant et un Bordeaux blanc qui s'appelle Château la Dame Blanche.
Vous avez combien de salariés ici?
On est 10. On produit environ 10 000 caisses ou 100 000 bouteilles de vin rouge, 6 000 bouteilles de vin blanc et environ 8 000 bouteilles de rosé. On les distribue un peu dans le monde entier.
Et quelle part de votre production part pour les États-Unis?
20% environ, 1 500 à 2 000 caisses, hein, donc 24 000 bouteilles, ce qui est important. C'est pour ça que d'ailleurs, ma fille part en septembre, donc dans 15 jours, aux États-Unis, quoi qu'il arrive, pour soutenir les vendeurs, les accompagner dans la vente de nos vins. Ça, c'est important.
Oui, parce que là, donc, 15% de droits de douane supplémentaires vont s'appliquer pour vous à partir de maintenant.
Oui, c'est une très mauvaise nouvelle, mais on va faire avec parce que ce qui est important, c'est de garder nos vins sur le marché, parce qu'une fois qu'ils sont sortis, après, c'est très compliqué de les remettre. Donc, on est partenaire avec nos importateurs américains parce qu'eux, ils sont aussi embêtés que nous. Et en plus, ils ne sont pas aidés parce qu'il y a la baisse du dollar. Et donc l'un plus l'autre fait que nos vins sont moins attractifs et donc susceptibles d'être moins consommés.
On est en train d'emprunter un petit escalier en colimaçon métallique qui descend jusqu'en sous-sol. On est dans une sorte de grande cave avec des murs en pierre et puis là on voit les fûts pleins de vin. Est-ce que vous avez eu des nouvelles des restaurateurs américains qui continuent à vous passer des commandes depuis les annonces d'augmentation à 15%?
On a eu justement en juillet, alors on s'est demandé si c'était juste avant que les 15% passent puisqu'ils sont passés au mois d'août. Maintenant, on a prévu de faire le point en septembre pour toutes les commandes de fin d'année. Ils savent qu'on partagera une partie de la taxe. Hein, donc, en fait, on va partager à trois. Donc, il y aura un tiers et un tiers. Et donc, le consommateur aura une petite augmentation, mais raisonnable.
En répartissant les coûts des droits de douane entre elle et ses partenaires commerciaux américains, Armelle Cruz espère limiter les impacts sur ses marges et sur le prix de son vin. Aux États-Unis, une de ses bouteilles de rouge s'achetait par exemple jusque-là $32. Elle pourrait désormais en coûter 36. Et Armelle s'attend à une baisse de ses commandes dès le mois de septembre, comme l'ensemble du Bordelais. J'ai maintenant rendez-vous dans le centre-ville de Bordeaux avec Christophe Château, le responsable communication du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.
C'est forcément une mauvaise nouvelle. On l'a connu suite aux taxes Trump lors de son premier mandat sur le cas Airbus-Boeing, où des taxes avaient été mises en place à hauteur de 25% et ça avait très fortement impacté le business des vins de Bordeaux vers les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis sont le premier marché des vins de Bordeaux à l'exportation, avec 30 millions de bouteilles expédiées ces 12 derniers mois pour un chiffre d'affaires de 430 millions d'euros. Ça va être un frein à la consommation parce que ça va forcément renchérir le prix des vins de Bordeaux aux États-Unis, qui vont augmenter de 30 à 50% sur les linéaires pour les consommateurs américains. Je pense qu'on va avoir une chute importante des volumes expédiés. Ça va faire moins de business, et s'il y a moins de business, demain, potentiellement, des pertes d'emplois.
Alors, quelles sont les solutions que vous envisagez?
Les négociations sont closes depuis jeudi. On espère encore, on vient d'écrire au président de la République et à Madame von der Leyen que des négociations soient reprises et qu'un accord puisse être trouvé avec des conditions qui soient plus favorables à nos vins. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de négociations en cours.
Les entreprises françaises du vin pourraient perdre plus d'un demi-milliard d'euros d'exportation, selon une estimation de la filière. D'autres secteurs sont particulièrement impactés. Le fromage, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques ou encore l'automobile. Au point de redouter des faillites? Je pose la question au médiateur des entreprises, Pierre Pellouzé, dans son bureau, rue de Richelieu, à Paris.
Il est difficile vraiment juste de se focaliser sur les droits de douane qui vont être parmi un ensemble de changements, de modifications. On voit des évolutions au niveau international avec le contexte géopolitique, on voit des évolutions au niveau national. Les droits de douane ne sont qu'un élément de plus qui vont affecter la vie des entreprises. Donc dire que les droits de douane en eux-mêmes vont être un facteur de faillite, c'est un petit peu difficile. Tout ce qu'on a vécu depuis 4 ans, flambée des matières premières, inflation, flambée des coûts de l'énergie, situation internationale qu'on vient de citer, etc. Tout ça, c'est une série d'à-coups qui tendent nos entreprises, qui les mettent dans des situations un peu inconfortables. Les conséquences, c'est qu'une entreprise qui va devoir affronter ses droits de douane va peut-être avoir des relations plus tendues avec ses clients français, avec ses fournisseurs. Et je dirais que ce n'est pas le moment. Nous, ce qu'on est en train de voir, c'est un besoin, au contraire, de resserrer les liens sur le tissu français. Faisons attention à nos clients, nos fournisseurs français, en particulier ceux qui vont être affectés par les droits de douane.
15% de droits de douane sur les produits européens contre 0% sur les produits américains. C'est le résultat des discussions qu'a suivi de près Jean-Christophe Chen,
oui,
député allemand au Parlement européen au sein du groupe centriste Renew.
Le résultat de l'accord n'est pas un très bon résultat, notamment maintenant que Trump recommence à mettre en question cet accord. Il remet en question la régulation du numérique en Union européenne. Il dit que c'est des règles qui ne sont pas acceptables et il menace l'Union européenne de droits de douane supplémentaires si on ne change pas nos lois. C'est un affront contre l'Union européenne parce que c'est nous qui faisons nos lois. À mon avis, la présidente de la Commission aurait dû contrer cette menace, cette attaque de Trump, ça veut dire des droits de douane sur certains produits américains pour riposter. Donc elle est restée faible dans cette négociation et quand on est faible face à Trump, ça a des conséquences. Cet accord, il menace des milliers d'emplois en Allemagne et on va voir comment la Chine va se mettre dans ce jeu, si la Chine en contrepartie va essayer de profiter de cette situation. Mais pour moi, c'est clair que nous, en tant qu'Européens, on doit être unis dans cette bataille mondiale qui concerne le commerce.
Ali Laïdi est auteur et chercheur à l'École de pensée sur la guerre économique, une université privée. Je le retrouve dans les locaux de France 24, où il est aussi journaliste. Pour lui, si les États-Unis ont déjà mené dans l'histoire une politique protectionniste, elle est cette fois d'une nature différente.
C'est pas tant un protectionnisme classique et traditionnel qui a toujours été inscrit dans l'histoire des États-Unis qu'une manière d'utiliser les tarifs douaniers comme une arme de guerre économique pour contraindre le partenaire à accepter les nouvelles conditions commerciales imposées par les États-Unis. Alors évidemment, c'est totalement illégal de procéder de la sorte de la part des États-Unis si on se réfère aux règles internationales, au multilatéralisme économique qui a été imposé à partir de 1947, les règles du GATT, puis en 1994, la création de l'Organisation mondiale du commerce. Il est parfaitement illégal d'augmenter les tarifs douaniers de cette sorte aussi brutalement. Donc l'Europe est en train de tendre la perche pour se faire battre.
Dans l'accord commercial entre Bruxelles et Washington, les Européens se sont aussi engagés à acheter des produits énergétiques américains pour un montant de 750 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. Et à investir 600 milliards de dollars aux États-Unis.
On ne pourra pas, et l'Europe n'a aucun instrument pour contraindre les entreprises européennes à investir 600 milliards de dollars d'ici 2028. On ne pourra pas respecter nos engagements. Et ils le disent encore une fois, par la voix du représentant au commerce, que si ces engagements ne sont pas tenus, alors ils pourront de nouveau imposer des droits de douane. Donc là, non seulement on sort du cadre légal de la loi, mais on donne aux États-Unis un moyen de surenchérir dans ce rapport de force que les États-Unis ont décidé d'avoir avec leurs partenaires et en particulier l'Union européenne.
Août 2025, la bascule vers un nouvel ordre économique. C'était le reportage d'Anna Elverzo.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et l'invité dont n'arrête pas l'écho a été ministre de l'économie à Bercy de 2005 à 2007 et commissaire européen au marché intérieur. En réalité, le titre était beaucoup plus long, de 2019 à 2024. Bonjour et bienvenue Thierry Breton.
Bonjour.
C'est l'information de la nuit, une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump sont illégaux. Voilà ce que dit une cour d'appel fédérale américaine. Le chef de l'État américain ne pouvait pas décider de mesures aussi massives sans le Congrès. Thierry Breton, que faut-il espérer de ce jugement ?
D'abord, ce n'est pas une surprise pour ceux qui suivent de près, je dirais, les affaires américaines. Du reste, c'est un jugement d'appel, hein. Donc,
une confirmation.
C'est donc une confirmation qui n'est pas une surprise pour ceux qui suivent de près ce qui se passe aux États-Unis. Je ferai une petite incise, si vous le permettez, en disant que dans son jugement, la Cour d'appel a été quand même assez diligente vis-à-vis de l'administration Trump, car elle laisse jusqu'au 16 octobre donc pour faire en sorte que ces droits de douane deviennent caducs à l'issue du jugement. Et qu'est-ce que ça veut dire, Alexandra Ben Saïd ?
Oui, qu'est-ce qui peut se passer ?
Ça veut dire qu'évidemment, les juges en appel ont donné le temps à l'administration de Trump de se retourner, de saisir donc, la Cour, évidemment, suprême, qui va donc avoir maintenant 45 jours pour trancher. On sait que la Cour suprême, aujourd'hui, est à la main, évidemment, donc de l'administration américaine. Donc, on va voir, je ne veux pas anticiper évidemment une décision qui, par définition, est une décision qui sera une décision autonome, bien entendu. Mais on peut penser, on verra bien, que ce temps va être utilisé à bon escient pour que la Cour suprême prenne une décision. C'est elle, je le rappelle, en droit américain évidemment, qui va s'imposer à tous. Donc, on va voir.
D'espoir, Thierry Breton, dans vos propos fait que les droits de douane puissent être éliminés.
En tout cas, la Cour d'appel avait la possibilité de les rendre caducs tout de suite. Elle ne l'a pas fait. Donc, j'invite nos auditeurs à réfléchir à la raison de cette plage de temps.
Et donc, l'accord commercial signé cet été entre l'Europe et les États-Unis continue de s'appliquer, en effet, jusqu'à mi-octobre. Vous faites partie, Thierry Breton, des plus critiques. Encore hier, vous avez publié une tribune dans Le Figaro, La Stampa, Handelsblatt, Le Guardian, ça a été publié dans plusieurs journaux européens. Vous parlez de soumission face à Washington. Alors franchement, il y a seulement le Royaume-Uni qui a obtenu 10% de droits de douane. Si on regarde la Chine, ça va être une surtaxe de 30%, le Brésil et l'Inde, 50%. Et si, en fait, Thierry Breton, vous étiez trop sévère? Et si, en fait, Bruxelles avait négocié le mieux possible?
Non, mais, Alexandra Ben Saïd, d'abord, je ne suis pas le critique pour plaisir d'être critique, etc. Je suis comme beaucoup d'entre nous, et pour, comme beaucoup de citoyens européens, je pense que l'Europe, on a voulu l'Europe, on veut l'Europe, parce que, évidemment, c'est notre projet démocratique, d'état de droit, mais c'est aussi parce que nous sommes plus forts ensemble. Et qu'est-ce que nous sommes, nous, Européens? Il ne faut jamais l'oublier. Si on est, si on est ensemble aujourd'hui, puisqu'on parle en fait des droits de douane, c'est-à-dire on parle de ce que nous représentons d'un point de vue économique, eh bien, nous sommes le premier partenaire commercial avec les États-Unis d'Amérique, l'une des toutes premières puissances économiques du monde. Et on s'est mis ensemble aussi pour ça et pour peser ensemble. Alors, il ne faut pas se comparer, pardon de le dire comme ça, je dirais, ni à la Grande-Bretagne, où j'entends qu'ils se comparent aussi à la Suisse. Non, moi, je pense qu'il faut qu'on se compare aux autres grands partenaires commerciaux. Et les plus grands partenaires commerciaux, ce n'est pas la Chine, contrairement à ce que vous venez de dire. C'est évidemment l'Europe, mais les États-Unis ont aussi deux autres très grands partenaires commerciaux. C'est le Canada et c'est le Mexique. Qu'est-ce qu'ont obtenu le Canada et le Mexique? Ils ont obtenu aujourd'hui, en taux effectif, Madame Ben Saïd, en dessous de 5% de droits de douane. Je le répète pour que nos auditeurs l'entendent bien, en dessous de 5%. Et encore une fois, comparaison n'est pas raison, sauf que si, un petit peu quand même.
Et sauf
il
que...
y avait, je vais juste vous dire en deux mots. Et ils se sont battus, on l'a vu, avec beaucoup de vigueur. Souvenez-vous de la présidente mexicaine, qui a tenu tête précisément, lorsque Donald Trump a dit qu'il voulait désormais mettre des droits de douane 25%, 30%, 50%, précisément parce qu'il y avait du fentanyl, et il avait raison du reste, qu'il traversait trop la frontière. Eh bien, elle a tenu tête. Le Premier ministre McCarney et son prédécesseur Trudeau ont tenu tête.
Oui, mais nous, Thierry Breton...
Je veux juste terminer,
il faut
que
je vous
c'est très
dis.
Important.
Mais on a compris, je crois.
Ah bon?
Mais il me semble, vous dites, on aurait pu tenir tête. Mm. Mais nous luttons en même temps, nous les 27, pour que les États-Unis ne lâchent pas l'Ukraine. Est-ce que c'est pas ça l'explication?
Attendez, il y a plusieurs choses. Je termine. Nous avons donc, ils ont obtenu effectivement une exonération de plus de 90% de leurs produits. 90, ils l'ont maintenu. Et la Commission avait à juste titre commencé les négociations en disant « nous allons faire pareil, nous allons proposer ce qu'on appelle du zéro pour zéro en économie, c'est-à-dire on va faire aussi une zone zéro pour zéro. » Et c'était la bonne stratégie, bien sûr, il faut peser, et on a baissé la garde. Alors bien sûr, pourquoi on a baissé la garde? On peut se poser des tas de questions. On a baissé la garde, mais parce que...
Pour
évidemment,
Kiev?
Oui, mais sauf que pour Kiev, madame, donc désormais... nous allons acheter, payer, ce qu'on fait déjà depuis très longtemps, depuis le début de cette guerre d'agression voulue par Vladimir Poutine, donc les équipements militaires que l'Ukraine achète donc, aux États-Unis. C'est la décision qui a été prise. Il y en a donc maintenant, puisque c'est ce qu'a annoncé Volodymyr Zelensky, il y en a pour 100 milliards. Nous avons appris également que je ne sais pas pourquoi, mais enfin, on va avoir 10% de plus. Puisque, en fait, ça va coûter 100 milliards, mais en fait, ce sera 110, puisqu'on est maintenant, on doit payer 10% de plus sur ce qui est acheté aux États-Unis pour soutenir l'Ukraine. Très bien, dont acte. Donc, il y a deux choses. On est dans une logique, cette fois-ci, qui est une logique mercantile, une logique commerciale. Le soutien, effectivement, il va continuer à s'exprimer. On va payer un peu plus cher. Et je crois qu'il faut, effectivement, faire la part des choses. Vous avez raison, on mélange un peu tout. C'est au fond la stratégie qui a été voulue par le président des États-Unis. Et il faut comprendre sa stratégie. Je ne dis pas que je la suis, mais il faut toujours comprendre qui est en face. On est dans ces logiques de rapport de force. La seule chose que je dis, c'est qu'à partir du moment où on nous dit qu'il fallait effectivement lâcher ces 15% de droits de douane contre, je le reviens, le répète, 5% au Canada et au Mexique, okay. Que pour nous c'est 15%, mais que derrière on a la stabilité, et que trois jours après, on a deux éléments qui sont intervenus, madame. Le premier, c'est effectivement celui où on dit, attendez, vos lois démocratiquement votées pour protéger nos enfants, vos concitoyens,
nos démocraties.
Ça, ce sont
les lois sur le numérique, les textes que vous avez portés,
le DMA.
Le DSA et le DMA.
Finalement, ça ne nous plaît pas, donc il faut les enlever, et si vous ne les enlevez pas, je remets les droits de douane. On n'a donc plus la stabilité. Je vous donne un autre exemple. Le 18 août, madame.
Mais on peut lutter.
Une autre information que je vous livre, si vous le permettez, à votre micro ce matin. L'administration américaine envoie une lettre en Allemagne en disant « Attendez, finalement, sur les machines-outils, c'est plus 15%, ce sera au contraire 35%, parce que dans les machines-outils, il y a de l'acier et de l'aluminium, et donc on va taxer l'aluminium à 50%. Donc finalement, donc maintenant, vous avez même l'industrie
allemande,
l'industrie allemande qui est en train de dire « Attendez, mais cette stabilité, elle est où? Jusqu'où ça va s'arrêter ?» C'est la seule chose que j'ai voulu dire. Jusqu'où ça va s'arrêter? Eh bien, il faut qu'ensemble, Européens, on dise non, stop, il y a un accord, il est ce qu'il est, dont acte, mais on veut la stabilité, et on ne veut certainement pas avoir et l'humiliation et l'instabilité.
Thierry Breton, vous avez été ministre de l'économie, je le disais, je vous ramène en France. Comment est-ce que vous qualifiez la situation aujourd'hui, politique, la cristallisation sur la question du budget ?
Ben d'abord, il y a deux choses. Alors, il y a la situation politique qui, hélas, est, je dirais, la conséquence de la décision de la dissolution. Donc on est maintenant dans cette période qui est une période qui est très, très néfaste, évidemment, pour la France. Ben ça, les forces démocratiques doivent s'exprimer. On n'arrive pas à créer de majorité au Parlement. On est en train de le voir. On en est déjà maintenant au deuxième gouvernement, donc depuis cet état, cette situation. On verra bien ce qui va se passer le 8 septembre. Il n'est pas impossible que le gouvernement, tombe à nouveau. Donc cette période d'instabilité, elle est évidemment très mauvaise pour nous, pour la situation...
Pour l'économie ?
Pour l'économie, bien entendu, parce que là encore, on parlait tout à l'heure, à l'instant, de stabilité et de prévisibilité. Alors bien sûr, on va nous dire, on a eu une petite croissance au deuxième trimestre qui n'était pas si mauvaise. On sait très bien, quand on regarde les choses, que c'est du stockage, et que ceci est dû, au fait, du surstockage, pour se protéger précisément contre les droits de douane à l'avenir. Donc il faut toujours nuancer les choses, même si on prend ce qui est à prendre, évidemment, et surtout quand on est un chef d'entreprise. Mais donc là-dessus, il faut être extraordinairement vigilant. Et puis je vais vous le dire les choses, comme je pense, et ça rejoint la première partie de notre discussion, madame. L'image de la France, la force de la France, la capacité à la France à s'exprimer dans un moment où on a tant besoin de notre parole, bien sûr en Europe, mais aussi dans le monde, elle est extraordinairement affaiblie. Et on a beau dire tout ce qu'on voudra. Moi, je suis comme beaucoup, je passe ma vie à l'étranger. J'entends, et vous croyez que ça nous fait plaisir, et vous croyez qu'on sait qu'on a des choses à dire. On a des choses à dire pour ce qui se passe au Moyen-Orient, on a des choses à dire pour ce qui se passe en Ukraine, vous y faisiez référence, on a des choses à dire pour ce qui se passe dans les relations aujourd'hui avec ces grandes puissances du monde qui sont en train, il faut dire les choses comme elles sont, pour certaines d'entre elles, de nous écraser entre les États-Unis, entre la Chine. Voilà, on a des choses à dire. Et aujourd'hui, je vous le dis comme je le pense moi-même, qu'on puisse me critiquer, on affaiblit terriblement la parole de la France dont on a tant besoin en ce moment.
Une question sur ce chiffre de 44 milliards, cet effort, l'idée que c'est ce montant-là, cet étiage-là, versus l'opposition qui dit non, une autre voie est possible. C'est quoi l'avis du commissaire européen, de l'ancien commissaire européen ?
Si j'avais un souhait à émettre ce matin, à votre micro, c'est de dire que tous ceux qui croient en notre projet européen, non pas parce qu'on est des l'Europe, comme on disait, non, parce qu'aujourd'hui, dans l'évolution du monde, on vient d'en parler à l'instant, tel qu'il est, je crois sincèrement qu'on n'a pas d'autre issue que d'avoir un projet à être ensemble. Et on a quand même bâti depuis 70 ans ce socle commun basé sur nos valeurs.
Non, mais là, ça veut dire que vous voulez dire qu'il faut respecter nos engagements européens,
mais ça veut dire que c'est pas... Depuis, juste un chiffre pour nos auditeurs. À partir de 2013, du 1er janvier 2013, on vote le TSSG, c'est-à-dire le traité qui nous engage ensemble, où là, à l'époque, il fallait qu'on soit à moins 0,5% de déficit et revenir à 60% d'endettement. On vote ce traité. Depuis le 1er janvier, madame, l'Allemagne, tous les ans, le respecte. Depuis le 1er janvier, madame, la France, tous les ans, ne le respecte pas. Du coup, on va pour récupérer, je dirais, cette indigence de notre pays, d'être un pays fondateur de l'Europe, de voter, de signer, de porter un traité, et dès le premier mois, de ne pas le respecter.
Mais ça va durer combien de temps, madame, ça ?
Mais ça va durer combien de temps que la France prend des engagements et la France ne les respecte pas. Et on s'étonne après. Donc moi, ce que j'aimerais tout simplement entendre, c'est que ceux qui sont des partis qui croient en ce que je dis, et ils le sont, je connais beaucoup, notamment au Parti Socialiste, j'ai beaucoup d'amis au Parti Socialiste, mais qu'on ne les entend pas. Et pourquoi ne disent-ils pas ? Mais on a raison, il faut que l'année prochaine, on fasse moins 4,8. Donc, moins 4,8, ça veut dire 40 milliards. Donc, on soutient le gouvernement Bayrou en disant, effectivement, l'objectif, c'est moins 40 milliards. Et quand Bayrou dit, je vais demander la confiance pour dire, est-ce qu'il faut ces 40 milliards, qui, évidemment, contribuent à réduire la dette, pourquoi est-ce qu'ils vont dire non ? Et c'est ça, ce que je ne comprends pas.
Thierry Breton, ancien ministre de l'économie, ancien commissaire européen, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
L'écho à la page, ce sont les recommandations de Christian Chavagneux, les livres qu'il faut lire. Et d'abord, Christian, vous nous présentez une enquête.
Oui, le titre c'est « Collaboration » au pluriel, mais tout est dans le sous-titre. Enquête sur l'extrême droite et les milieux d'affaires. C'est notre confrère Laurent Mauduit de Mediapart qui sort ça à la découverte. C'est un livre que j'ai trouvé passionnant et terrifiant. Les faits, c'est simple, vous découvrirez dans le livre comment il y a un rapprochement de tous les patrons, les petits et les gros, avec l'extrême droite. Mais ce qui est le plus intéressant du livre, c'est pourquoi il y a ce rapprochement. Et là, on voit qu'il n'y a pas d'explication unique. Il y a les patrons qui disent, quand le RN fait 30% des suffrages, mes salariés, mes clients, mes fournisseurs, c'est aussi dans les 30%, donc je suis bien obligé d'en tenir compte. Il y a les convaincus, hein. Il y a les patrons qui défendent le fait que l'extrême droite doit arriver au pouvoir. Il y a la haine des mesures économiques et sociales de la gauche qui fait qu'on se rapproche de l'extrême droite. Et puis, il y a la volonté d'un pouvoir fort pour reprendre la France en main. C'est un petit côté années 30, etc., etc. Plein d'autres raisons. Il y a des résistants. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ross McInnes, le président du conseil d'administration de Safran, est présenté comme un résistant. Il n'y en a pas beaucoup. Laurent Mauduit nous dit qu'il y a essentiellement des adeptes de la collaboration, c'est-à-dire l'acceptation, l'accoutumance, le soutien, voire la convergence idéologique avec le RN. À lire absolument, mais attendez, ça sort dans une dizaine de jours.
Et on a de les bonnes feuilles avec vous, Christian. Second livre que vous nous présentez là, vous nous avez prévenu, on va prendre de la hauteur.
Ah oui, c'est une histoire économique et sociale, écoutez bien Alexandra, la France de la préhistoire à nos jours. Donc c'est pas de la longue durée, c'est de la très très longue durée. C'est un livre qui a été dirigé par Pierre-Cyril Hocker et Catherine Virlouvet, deux économistes historiens, ça sort chez Passé Composé. C'est un monument, c'est une cathédrale, c'est plus de 1000 pages avec 60 chercheurs et chercheuses qui ont contribué. Alors, la préhistoire, vous me direz, et les chercheurs le disent, c'est un peu fragile, hein, parce que ça peut changer. En même temps, le néolithique, donc on est entre moins 6000 et moins 2300 avant notre ère, il y a des inégalités sociales fortes qui sont dues à quoi ? À la détention du capital, entre guillemets, la terre, les réseaux d'échange, la métallurgie. Autre chose, l'âge de bronze, c'est juste après, on est entre 2300 et moins 800, le vêtement sert de moyen de distinction sociale. Les riches, de tout temps, essayent d'échapper à l'impôt, c'est pas une nouveauté. Depuis le Moyen-Âge, les États sont endettés, donc là non plus, c'est pas une nouveauté. Puis quand les patrons nous disent « Oh, il faut de la stabilité politique », la révolution et l'empire, ça n'a pas changé grand-chose à l'économie française. C'est un livre de référence.
Christian Chavagneux, l'écho à la page.